Merci Emma. Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre présentation du chiffre d'affaires annuel 2020 du groupe Lumibird. Malheureusement que nous tenons encore cette fois-ci par conférence téléphonique compte tenu des restrictions sanitaires qui s'imposent. Merci d'être avec nous ce soir et merci pour l'intérêt que vous portez à Lumibird. J'en profite donc également pour vous présenter au nom de toute l'équipe de Lumibird nos meilleurs voeux de santé, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Donc j'aurai le plaisir de faire cette présentation accompagné de M. Jean-Marc Gendre, directeur général délégué. Seront aussi présents pour répondre à vos questions Mme Aude Nomblon-Gourand, directrice financière du groupe, ainsi que M. Pierre Valalta, conseiller stratégique en finance. Alors, je commencerai donc par la présentation du chiffre d'affaires 2020 en commentant donc les faits principaux de l'année passée. Ensuite, compte tenu de l'évolution importante du groupe, notamment l'an dernier, nous ferons un point sur ce qu'est Lumibird aujourd'hui. Jean-Marc vous parlera plus précisément des marchés que nous adressons. Et je reprendrai sur la partie stratégie et objectif 2023. Donc, le chiffre d'affaires 2020 s'établit à 126,7 millions d'euros, en croissance de 14,4% et en conformité par rapport aux attentes. Donc, vous le voyez sur le deuxième bar graphe en partant de la gauche. Donc, ce chiffre d'affaires est composé de 54% de photonique et de 46% de médical. Donc, la photonique est l'ancien périmètre laser auquel nous avons rajouté l'activité LIDAR d'allophotonique. Vous voyez sur la partie médicale, nous avons une forte progression de 48,1% qui s'explique essentiellement par l'ajout de l'activité d'Elex sur le deuxième semestre et sur la partie photonique un léger recul de l'ordre de 4% avec une répartition assez homogène sur les trois activités principales un tiers sur défense spatiale industrielle scientifique et capteurs LIDAR. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 s'établit, lui, à 146,4 millions d'euros. Ceci, en intégrant Elex sur l'ensemble de l'année 2020. Sur le périmètre historique, le chiffre d'affaires s'établit à 100 millions d'euros, en retrait de 9,7%, expliqué principalement par les baisses sur le contrat mégajoule de 5,5 millions d'euros, et sur l'activité médicale, moins 3,2 millions d'euros, liés à l'annulation des grands salons médicaux de 2020. Nous constatons par contre une reprise de la croissance organique sur le dernier trimestre, avec un record à 48,2 millions d'euros en global. Cette progression de 2,1%, est notamment établi grâce à un rebond sur l'activité photonique de 3,7% et un retour vers la stabilité sur la partie médicale avec un léger retrait de 0,5%. Pour conclure sur ce slide, une bonne résilience des marchés du périmètre historique et une belle progression grâce à nouvelles activités Elex, Allo, Optotech. Ce qui indique une bonne maîtrise de l'intégration de ces nouvelles activités. Vous avez sur la partie droite de la diapositive les faits marquants division, par activité. Je vous laisse lire. Peut-être juste commenter très rapidement. Le scientifique et industriel c'est quand même bien maintenu avec du plus et du moins moins sur la partie scientifique plus sur la partie réparation d'écran plat. La défense spatiale est essentiellement impactée par le programme Mégajoule. Par contre sont venus compenser cette décroissance, toutes les activités en fait hors contrat, à la fois sur la défense et sur le spatial, des activités qui ont été extrêmement actives sur particulièrement la fin d'année. Ensuite, sur le LIDAR, le point principal le véhicule autonome, c'est le retour en 2020 sur des phases de développement, ce qui nous a impacté au niveau du chiffre d'affaires, mais ce qui ne veut pas dire que ce marché n'est pas abaissé ou est moins accessible pour les Uber, tout au contraire. Nous avons en fait repris en fait donc en fin d'année quelques commandes sur la DAS, mais également sur d'autres parties en fait du LIDAR, avec un bon rebond hors halo de 14,4%. Et sur le médical, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'activité freinée par la difficulté d'avoir en fait de maintenir en fait ces contrats, ces expositions, ces salons médicaux, avec néanmoins un retour en fait sur le dernier trimestre par rapport à l'an passé. Refaisons maintenant, si vous le voulez, un point sur ce qu'est l'Unibird aujourd'hui, compte tenu des dernières activités que nous avons intégrées l'an dernier. Pour rappel, l'Unibird est un spécialiste des technologies laser et de ce fait, on propose des solutions laser innovantes. Et on peut dire que ça tombe très bien, puisque le laser est aujourd'hui tout à fait indispensable dans un nombre important de développements de technologies de demain. Et ce, grâce à des caractéristiques du laser, que sont la puissance, avec des lasers extrêmement puissants aujourd'hui qui dépassent le terawatt, et même le pétawatt pour les systèmes les plus puissants en pulsé, pour faire en fait essentiellement des expériences de physique nucléaire, mais qui ont également en fait des implications en médecine, sur la partie également des records de puissance sur des systèmes pour tout ce qui est découpe, marquage, etc., avec des lasers de 100 kW et plus. La portée, elle, on s'est grandement amélioré également. C'est lié forcément à la puissance des lasers, mais également à la qualité de faisceau qui est très très bonne par rapport à des sources de lumière traditionnelles, un faisceau très peu divergent, qui permet en fait d'avoir des portées pour des lidars qui dépassent 50 km, et pour les communications intersatellites qui ont dépassé les plusieurs milliers de kilomètres dans le vide. Et enfin, une caractéristique importante aussi, c'est la précision qu'on obtient en fait en manipulant le faisceau avec des optiques, en focalisant par exemple, on obtient des tâches focales de très petites, de l'ordre de 60 microns, qui permettent de faire en fait des trous ou du micro-usinage de façon très précise, mais également ces caractéristiques spectrales, puisque le laser est très fin spectralement, et de ce fait, il interagit de façon très sélective avec certains matériaux, qu'ils soient organiques ou non. Sur la partie marché, la bonne nouvelle, c'est que sur les deux grandes branches que nous adressons, y a vraiment un élan important. Sur la photonique, on peut considérer que ce que nous vivons sur les capteurs aujourd'hui, c'est une quatrième révolution après celle de la révolution que nous avons vécue en fait sur l'audiovisuel dans les années 90 avec les DVD qui utilisaient en fait les diodes laser rouges et puis ensuite bleus. La deuxième révolution photonique, ça a été celle des télécoms dans les années 2000. La troisième révolution, ça a été celle en fait des lasers de découpe, de marquage, de traitement de la matière, avec des lasers ultra puissants. Et aujourd'hui, en fait, la quatrième révolution sur les capteurs, essentiellement sous-tendue donc par l'explosion en fait donc des besoins donc en automate donc en robot en système qui comporte de l'intelligence artificielle et qui ont besoin évidemment de capteurs pour fonctionner. Donc le médical n'est pas en reste puisqu'en fait que ça soit pour le laser comme pour les technologies en fait d'ultrasons ces deux technologies sont largement diffusées et sont de plus en plus accessibles à des besoins cliniques pour traiter des pathologies un petit peu partout dans le monde et c'est très bien. Ce faisant, nous sommes spécialistes du laser, nous avons des marchés avec très forts potentiels. Néanmoins, en tant qu'ETI, on doit faire le nécessaire pour que tout ça prenne une place réelle dans les bénéfices pour l'évolution du groupe. On travaille de façon très active sur la partie développement. On investit beaucoup dans l'innovation sur de nouveaux produits, de nouvelles technologies. Mais nous sommes également très attachés à avoir des outils industriels performants et de plus en plus tournés en fait vers l'automatisme. La partie technologique sera également renforcée et accélérée par certaines technologies que nous n'avons pas dans le groupe aujourd'hui. En chiffres, vous avez ici en fait sur ce slide le chiffre d'affaires, on rappelle, sur la base du pro forma 2020, qui s'établit à 146,4 millions d'euros, pour un effectif d'à peu près 800 collaborateurs, qui sont répartis sur 9 sites de production et de développement, un petit peu partout dans le monde. Donc, ça aussi, c'est une grande force, en fait, un très gros avantage, en fait, du groupe Lennybird, d'être présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Australie. Nous exportons énormément, plus de 70%, même 80% en fait, du chiffre réalisé en dehors des frontières. Et vous avez ici, pour rappel, la répartition du chiffre d'affaires sur le pôle médical, en tenant compte d'Elex, qui s'établit à 77,9 millions d'euros, 53% du chiffre d'affaires. Et pour la partie photonique, 68,5 millions d'euros, soit 47 millions du chiffre d'affaires 2020. Vous avez en fait ici quelques exemples de produits que nous produisons pour visualiser un petit peu les produits, voilà à quoi ils ressemblent. En commençant en fait sur la partie gauche, le médical, vous avez en fait les lasers de traitement. Ce sont des systèmes utilisés essentiellement en ophtalmologie. Ici en fait sur la gauche en haut, vous avez le Tango, qui est le produit récemment acquis d'Elex. Ensuite, vous avez les échographes, historiquement développés à Clermont, qu'ils soient en fait sur tablette ou qu'ils soient sur blanc, avec un échographe interventionnel rajoute un système d'endoscopie également. Ça, c'est essentiellement issu en fait d'activités d'ECM que nous avons intégré maintenant il y a 18 mois, et une gamme de produits sur la sécheresse oculaire. Et sur la partie droite, en photonique, vous avez quelques exemples à la fois de lasers, en haut, des lasers fibrés qui sont très compacts, destinés à être intégrés dans des systèmes. Sur la droite, les lasers de puissance sont les lasers, en haut à gauche, pardon, sur les lasers à fibre. En haut à droite, des lasers de puissance utilisés essentiellement pour la partie scientifique. Et puis vous avez ensuite dans le bas à droite des exemples de systèmes LIDAR qui sont en fait guidar atmosphérique. Donc, c'est des produits donc issus de la gamme de Halo Photonique et donc des télémètres de SensUp la gamme Opal donc issue en fait de notre activité donc au Canada. Donc vous avez en fait donc à l'intérieur de l'univers donc on a plusieurs marques, toutes les marques que vous avez en fait donc en bas de page qui constituent donc autant donc bah, d'éléments donc distinctifs mais qui se rassemblent aujourd'hui en fait donc sous un seul et même chapiteau. Voilà. Donc nous allons passer maintenant, si vous voulez bien, donc à la partie répartition du chiffre d'affaires géographiquement. Une grosse proportion, 50% à peu près, donc est réalisée en Europe. Donc et pour simplifier, 50% donc en 25% donc en Amérique, en CALA, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et donc dans les zones asiatiques et pacifiques, donc 25%. Donc voilà donc la répartition. Donc le slide 11 vous montre ici en fait donc la pour rappel donc un petit peu la croissance historique de croissance depuis 2016. Donc vous savez qu'en 2017 la société Kéopsis donc a racheté en fait Cantel donc et a donc donné donc naissance donc à ce groupe Lumibird. Donc vous voyez en fait donc sur de 2016 donc à 2020 donc la progression en fait donc du chiffre d'affaires traduit à la fois donc en croissance donc externe donc en croissance organique. Donc le chiffre d'affaires en 4 ans donc a été multiplié par 8,5. Donc avec une contribution importante donc de la croissance externe donc c'est sur 72%, mais une croissance organique donc de 16% non négligeable donc particulièrement donc avec l'année 2020 donc qui nous a quand même donc pénalisé donc sur la partie périmètre historique. Donc ensuite on voit également le bénéfice sur le slide 12 le bénéfice en fait de l'augmentation en fait donc la performance augmentée en fait sur la rentabilité liée à la taille en 3 ans de 2016 à 2019 le résultat opérationnel courant a été multiplié par 4. On voit bien en fait que la taille avec ce recul de 3 ou 4 ans nous offre à la fois en fait un accès une accélération en fait des prises de marché on va plus vite sur notre chiffre d'affaires, mais on améliore également notre rentabilité. Ce qui est bien la preuve, les intégrations aujourd'hui se passent plutôt très bien dans l'univers Lumibird. Sur la partie marché, je vais passer la parole à Jean-Marc qui va vous expliquer les différents marchés de Lumibird.
Merci Marc, bonsoir à tous. Donc, on a essayé de résumer un petit peu les marchés sur lesquels on travaille. Donc, sur le slide suivant, on a le genre de choses qui fait rêver tout le monde, puisqu'on parle des marchés du laser en général. Donc là, on est à plus de 26 milliards de dollars estimés au marché en 2025. Mais avant de regarder la croissance, on va s'attacher finalement au grand pôle sur lequel nous pouvons nous appuyer. Donc, ce marché-là, ce marché mondial gigantesque, il a 3 grands segments, le segment des communications et de la R&D, oui, 31% à peu près, le segment du matériel processing, 42%, et à l'intérieur de ça, on va retrouver 3 marchés de Lumibird sur lesquels nous travaillons abondamment actuellement, le marché des sensors LIDAR, le marché du militaire et de la défense, et le marché des applications médicales. Alors, des applications médicales, une précision, c'est aussi bien des produits finis, comme les lasers d'ophtalmo que nous vendons, comme des composants qui interviennent dans d'autres lasers du secteur médical. Donc la croissance, le CAGR à 9,6% entre 2020 et 2025. Donc une croissance pratiquement à deux chiffres, et tout ça est bien sûr très important. Alors on s'est attaché sur le slide suivant à trois marchés sur lesquels nous voulons nous développer. Donc en premier, je vous parlais un petit peu du marché du lidar et des sensors. Donc Marc en a parlé un petit peu tout à l'heure. On parle pour ce segment-là de la quatrième révolution photonique. Je ne vais pas revenir dessus. On retrouve ces lidars dans trois grandes applications. Les applications dans l'autonomie, dans la mobilité, c'est la DAS, mais c'est pas que ça. Derrière, il y a dans la logistique. On retrouve aussi tous ces produits dans tout ce qui est vision et intelligence des machines, les scans 3D, l'automatisation. Et enfin, dans tout ce qui est énergie renouvelable, les lidars vent, les lidars atmosphériques et la maintenance préventive. Donc, si on regarde toutes les études qui sont sorties, ces chiffres-là, je crois qu'on les a déjà partagés avec vous et ou que vous les avez bien sûr à votre disposition. Donc, ce marché-là est estimé en 2025 à 5 milliards de dollars et qui se répartit principalement entre deux gros pôles, les véhicules autonomes, 5 milliards, alors qu'aujourd'hui, on est aux environs de 200 millions. Et puis, à côté de ça, le marché de tout ce qui est les autres deux grandes catégories, à la fois les lidars vent et à la fois le 3D scanning. Les concurrents, vous pouvez les lire. Et à côté de ça, si on prend le positionnement, donc ce marché en progression, des drivers que j'ai mentionnés, et quel est le positionnement de Lumibird à l'intérieur de tout ça? Notre positionnement, c'est d'être vraiment le fournisseur de technologie laser pour à la fois des fabricants de lidar, mais également le fournisseur de lidar pour des intégrateurs lidar, du composant jusqu'au système. On a fait un vrai choix d'intégration verticale et on s'attache énormément à tout ça. Donc, si on prend des lasers pour les lidars, on va s'adresser à des startups ou des industriels dans la DAS, dans le robotaxi, dans les trains, dans les bus, les transports de marchandises, dans tout ce qui est logistique, agriculture, mine. Donc là, c'est un premier type de marché. La deuxième chose, c'est les lasers pour tout ce qui est scan 3D. Donc là, pareil, ce sont des industriels ou des intégrateurs qui développent des produits pour tout ce qui est topographie, cartographie et surveillance. Et enfin, un marché bien sûr très attractif actuellement, c'est le LIDAR pour wind sensing. Donc là, c'est à la fois des labos de recherche pour la météorologie, des LIDAR atmosphériques. On s'adresse à certaines universités ou alors carrément des fabricants d'éoliennes qui vont venir poser nos LIDAR au sommet des éoliennes. Donc ça, le premier marché LIDAR, intéressant, une croissance marquée, une présence importante de notre part et des solutions techniques verticalisées. Et encore une fois, sur la droite, les principaux concurrents. Après ça, on a le marché de la défense. Alors, le chiffre d'affaires de la défense, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'est un peu plus de 20 millions d'euros chez nous. Mais on parle, nous, de défense et de spatial. Donc, les drivers, il y a deux drivers principaux, on va dire. Il y a d'abord une vraie course technologique. L'objectif pour tous les intervenants, c'est de réduire la consommation d'énergie, c'est de réduire l'encombrement, c'est bien sûr augmenter l'efficacité. Il y a des développements de nouveaux capteurs à plus grande sensibilité, avec des portées de plus en plus lointaines et des résolutions de plus en plus précises. On retrouve aussi le développement technique des armes laser, point et sujet sensible. Et enfin, on parle de laser souverain ou de télémètre souverain, donc la volonté d'indépendance européenne vis-à-vis des USA. Et ça, ce n'est pas une nouveauté. Donc, dans la défense, c'est comme ça. Dans le spatial, on va retrouver trois choses, hein, le télécom dans les constellations de satellites, les systèmes de guidage des véhicules comme la navette ou comme les rovers, et dernièrement, les systèmes pyrotechniques qui vont servir, par exemple, à séparer les différents éléments d'une fusée. Sur la droite, tendance de marché, 1,3 milliard en 2019, plus de 4 milliards et demi en 2025, un CAGR à 22,6%, donc quelque chose de très attractif. Les concurrents retrouvent à la fois des fabricants de laser ou alors des fabricants de systèmes laser. Le positionnement de Lumibird, il est clair. C'est l'offre sur, avec nos trois principales technologies, solides, les fibres et nos diodes, avec des lasers, des amplificateurs et des systèmes LIDAR. Nos clients, on en a déjà parlé, c'est bien sûr les grands intégrateurs que sont Thales, Safran, MBDA, Ariane, LESA ou Leonardo, plus un certain développement actuellement au niveau des intégrateurs USA, avec fin 2020, beaucoup de demandes pour ce type de produit-là sur le marché américain. Donc, un marché attractif, compliqué, sur lequel nous sommes très présents technologiquement. Et pour finir, le médical, troisième marché important pour nous, Donc, dans le marché médical, les drivers, c'est le vieillissement de la population, ça paraît une évidence, c'est l'augmentation de l'accès aux soins, que ça soit dans les pays de l'OCDE ou aux quatre coins de la planète, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de demandes. Mais il y a aussi un driver qui est important, c'est l'évolution de la prise en charge des pathologies. On essaie d'être de moins en moins invasif, on essaie d'intégrer de plus en plus d'intelligence artificielle. Le monde du diagnostic a évolué énormément dans ce domaine-là. Les tendances du marché, alors les lasers traitements, c'est des marchés qui sont difficiles à reconstituer, mais les lasers traitements qui nous concernent, hein, donc il n'y a pas les lasers de chirurgie réfractive à l'intérieur, c'est un marché qui est aux environs de 500 millions d'euros, porté principalement par l'utilisation dans le domaine du glaucome et la cataracte, avec un CAGR aux environs de 5%. Et à côté de ça, un marché d'échographes de diagnostic dans le domaine de l'ophtalmologie dans un premier temps, c'est 70 millions d'euros à peu près. C'est un CAGR plus faible, hein, aux environs de 2%. Ce qui est important de noter, et pour rebondir sur la présentation de Marc il y a quelques instants, donc l'échographe que vous avez vu avec l'intégration de l'endoscopie à l'intérieur nous ouvre tous les marchés en dehors de l'ophtalmologie pour l'échographie. C'est quelque chose de très 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 intéressant que nous avons lancé en 2020, un peu stoppé par le Covid, mais nous espérons beaucoup de ce produit-là. Donc le positionnement de Lumibird, eh bien, tout simplement, c'est le développement et la fabrication de systèmes médicaux et de diagnostics dans le traitement de l'ophtalmologie et du point of care. Je rajouterai un point aussi, de plus en plus de demandes pour être un fournisseur OIM pour les différents acteurs du marché, et tout ça, c'est très 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 intéressant. Donc en résumé, trois marchés qui représentent une certaine partie intéressante du marché global des lasers, un CAGR à 10% pour le marché global, et à l'intérieur de ça, trois segments dynamiques sur lesquels nous sommes très présents. Marc, je te laisse continuer.
Oui, très bien, merci Jean-Marc. Donc sur la partie stratégie et objectif 2023, nous avons travaillé sur le dernier trimestre malgré en fait donc une activité très soutenue. Nous avons travaillé en fait à nous redonner en fait des repères chiffrés pour les trois années à venir. Et nous avons en fait donc non seulement nous donner les chiffres, mais travaillé avec l'ensemble des équipes sur un plan opérationnel pour atteindre ces objectifs. Alors ces objectifs en 2023. Ils sont les suivants. En 2023, nous prévoyons de doubler le chiffre d'affaires. Avec une contribution de croissance organique qui sera entre 8 à 10% par an. Le reste par le biais en fait de croissance externe. Essentiellement ciblé en fait sans surprise sur les trois secteurs d'activité principaux que nous avions déjà sur lesquels nous avons déjà communiqué, à savoir les capteurs, défense spatiale et le médical. C'est le premier point sur le chiffre d'affaires. Le deuxième point, la rentabilité. Estimé en fait une fourchette entre 20 à 25% d'EBITDA qui sera obtenu à horizon de 2023, compte tenu en fait des nouvelles intégrations aussi que nous allons réaliser entre maintenant et 2023. Alors comment nous allons faire ça? Doublement du chiffre d'affaires. Sur la partie organique, en commençant par le médical, ceci étant pour l'ensemble des activités, la bonne nouvelle, c'est comme on vous l'a démontré, Lumibird est positionné sur des marchés extrêmement porteurs, des marchés qui sont très actifs, et nous avons déjà des positions de leadership relativement bien affirmées sur ces marchés. Nous allons utiliser en fait déjà ce très très bon positionnement et continuer sur le médical en poussant les ventes une équipe bien consolidée au niveau du groupe médical qui va travailler de concert sur l'ensemble de la gamme Avec un focus particulier sur certains territoires qui sont encore sous-exploités. Ça, on sait qu'on a effectivement un levier de progression important sur cette partie vente. Sur la partie photonique, c'est de la prise de marché. On continue en fait les forts soutenus avec les gammes actuelles dont on sait qu'elles ont encore beaucoup de potentiel de croissance sur les marchés, les territoires principaux, l'Europe, le Japon, la Chine, la Corée, les États-Unis. Sur la partie LIDAR plus spécifiquement, vous savez que c'est très difficile de faire des projections sur le marché en fait du véhicule autonome. Néanmoins, nous sommes évidemment toujours présents et travaillons en fait avec tous les acteurs principaux en fait du domaine pour continuer d'anticiper en fait le besoin et développer les produits qui seront en demande à horizon de vraisemblablement 2022, maintenant. Voilà. Sur la partie croissance externe, sur le médical, essentiellement en fait un focus sur complémenter l'activité d'ophtalmologie, mais avec quand même une exploration en fait dans d'autres spécialités utilisent le laser notamment la gynécologie et l'oncologie. Sur la défense spatiale, là aussi la prise de marché, dans la mesure où ce sont des marchés qui sont très longs à développer, faire de la croissance externe sur la défense, particulièrement, fait gagner énormément de temps. Il n'en reste pas moins qu'il y aura quand même quelques technologies également, je vais rajouter spécifiquement sur la partie spatiale. Et enfin sur le LIDAR, essentiellement des briques technologiques manquantes pour continuer d'affirmer notre leadership sur les technologies LIDAR. Concernant l'amélioration de la rentabilité, il y a évidemment beaucoup de choses à travailler. Là, on a sélectionné en fait quatre points essentiels. Premièrement, les achats qui représentent quasi la moitié en fait de notre chiffre d'affaires. L'enjeu est évidemment très important. Et là, on sait qu'on a évidemment un levier très important. Nous allons mettre en place renforcer en fait l'équipe achat avec une politique plus agressive sur l'ensemble en fait du groupe pour massifier et mieux acheter. Ensuite sur la partie fonction support, là aussi besoin de renforcer apporter en fait de la fluidité et du support aux équipes opérationnelles aux équipes métiers. Ça aussi, ça devrait permettre d'améliorer en fait l'efficacité de tout le monde à la fois des gens qui font du développement de la production, de la logistique, etc. Mais également en fait les gens qui sont en support avec peut-être une meilleure structuration nous aurons des résultats améliorés. La supply chain, qu'on renforce aussi, avec un enjeu important sur l'ensemble du groupe, puisque le périmètre continue de s'agrandir. L'importance de toujours d'homogénéiser les pratiques d'optimiser en fait les sites de production et les productions par site. Ça, c'est un enjeu opérationnel fort. Et enfin, la verticalisation. Là aussi beaucoup de travail qui a été forcément très largement entamé avec de nouvelles plateformes mais bon voilà c'est un travail de longue haleine pour les plateformes et également sur les briques technologiques ou les composants stratégiques qui sont souvent chers qui apportent de la différenciation au niveau des produits. Voilà, ces quatre actions sont menées bon train en fait donc dans les mois donc qui viennent donc aux côtés d'autres actions que je n'ai pas développées ici. Donc voilà donc pour bon, la présentation donc du chiffre d'affaires. Donc écoutez, je vous remercie de votre attention et je vais vous laisser la parole pour les questions.
Nous allons à ce moment commencer la session questions et réponses. Afin de pouvoir poser une question, veuillez composer étoile suivi par 1 sur votre appareil téléphonique. Si vous changez d'avis et voulez sortir votre nom de la liste des questions, veuillez appuyer sur étoile et 2. Toute personne voulant poser une question peut composer étoile suivi par 1 à ce moment. La première question de la part de M. Jérémy Salé de Potsdam Park. À vous la parole, monsieur.
Oui, bonjour à tous. J'avais juste deux petites questions concernant les objectifs 2023, et notamment sur le chiffre d'affaires. Je voulais savoir si le doublement du chiffre d'affaires était sur le périmètre pro forma ou uniquement sur les chiffres qui ont été publiés. Et ensuite, sur l'objectif de marge d'EBITDA qui est entre 20 et 25%, vous avez mentionné qu'il sera atteint en 2023 et dans le communiqué, c'est indiqué 2021. Je voulais juste savoir quel était le bon horizon. Merci.
Donc, Pierre, donc, je vais vous laisser répondre si vous voulez.
Alors, pour le bonjour à tous. Donc, dans l'objectif en fait qui est que l'on a fixé, en fait l'objectif que l'on se fixe, on est sur la base en fait des données à date en fait hein, donc de 2020. Donc, on est bien sur le doublement du chiffre d'affaires sur une base de 127 millions. Donc, notre objectif en fait est d'atteindre et de dépasser en fait les 250 millions à l'horizon de 2023.
Ok, merci. Et au niveau de la rentabilité, c'est également à horizon 2023 du coup?
Oui, également, oui, pardon.
Ok, merci.
La question suivante est de la part de M. Eric Blaine de Finance Connect. À vous la parole, monsieur.
Oui, bonsoir, bonjour. Une marge EBITDA de 20-25% 2023, ça vous fait une marge EBITDA de combien a priori si, parce qu'il y a des investissements qui auront lieu, qu'est-ce que ça donne comme marge EBITDA?
Pierre, tu peux répondre, s'il te plaît?
Oui, la perspective en fait que l'on a, c'est pas la guidance que l'on donne, hein, mais on est effectivement entre 15 et 16 en fait de ROC, en fait ce que nous on appelle le ROC en fait de marge d'EBITDA.
D'accord. 15 et 16 d'accord. En fait, il y a 10 points d'amortissement et des efforts de recherche, etc. C'est ça?
Exactement.
Parce que vous capitalisez la R&D?
Oui. En partie, en fonction de Madame Lamblot qui parle, c'est en partie en fonction des projets qui sont réalisables au regard des normes en fait. Donc une partie de la R&D qui est activée et qui représente grosso modo la moitié des dépenses d'amortissement du groupe.
Et la base de 2020, c'est quoi, c'est la marge EBITDA de 2020 que vous pensez pouvoir faire?
Alors c'est pas le temps d'en parler aujourd'hui.
C'est un peu tôt là.
Là, c'est un petit peu tôt.
Mais a priori, compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires, on va s'attendre à un tassement de la marge EBITDA par rapport à l'année dernière.
Alors là, je vous invite à revoir notre communication sur les résultats semestriels du mois de mai. Il y a quand même eu un effort qui a été réalisé pour la maîtrise des charges externes, mais également sur l'optimisation de la marge du chiffre d'affaires consommé. Maintenant, voilà.
On peut dire qualitativement qu'on s'attend quand même à de bonnes nouvelles donc côté marge donc sur 2020. Donc bon, même si le chiffre d'affaires donc sur le périmètre historique donc a baissé, il y a eu un gros travail de fait en fait donc sur la maîtrise des charges. Donc d'une part, donc d'autre part, donc tout ce qui est donc intégration, donc c'est également donc très bien passé. Donc Donc on s'attend donc bon, à de bonnes nouvelles. Donc, mais ça, bon, on communiquera enfin, sur ces marges. Donc je crois que c'est au mois de mars. Voilà. Hein.
Je voulais juste avoir une info. L'évolution du dollar pour vous, globalement, vous pouvez nous donner les plus et les moins que ça donne sur l'évolution de la marge?
Là encore, c'est un petit peu tôt pour vous donner ces éléments de façon très précise. On a un effet effectivement du dollar sur la marge, mais globalement en fait on est autocouvert sur le sujet en fait, puisque nos entrées en dollars représentent grosso modo nos achats en dollars. Donc l'impact n'est pas majeur pour la marge du groupe.
Il n'y a pas d'impact de transaction, quoi. Il y a juste un impact de translation.
Exactement. Exactement.
Merci.
Je vous en prie.
Je veux rappeler que vous pouvez vous enregistrer en appuyant les touches étoiles du pas 1. La question suivante est de la part de Gilbert Ferrand de Midcap Partners. À vous la parole, monsieur.
Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, j'aurais voulu avoir un petit point qualitatif justement sur Elex. Vous avez en main cette opération depuis 6 mois. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire un petit état des lieux, un premier bilan du chantier de l'intégration, comment ça se passe au niveau commercial? Et justement, ça rejoint un petit peu les questions que mes collègues ont sur l'évolution des marges. Est-ce qu'il y a plutôt des bonnes surprises à attendre des premiers mois, en tous les cas, que vous avez de vision sur cette société?
Je vais répondre. Donc, Elex, nous avons signé le 24-12. Le signing a été fait le 24-12-2019 et le closing le 30 juin. Donc, c'est vrai que sur le papier, avec la pandémie, l'absence de voyage, c'était pas tout à fait gagné. Mais il y avait quand même un avantage, c'était une entreprise que nous connaissions bien, sur des marchés que nous connaissons bien. Et on a pu anticiper pendant les 6 premiers mois de l'année, avec le management sur place, avec le management de transition ici sur Clermont et dans le groupe, on a pu vraiment se préparer. Ce qui fait que très tôt, dès le 2 juillet, c'est-à-dire dès que nous avons eu vraiment les clés de la maison, dès le 2 juillet, on a mis en place toutes les synergies, on a démarré toutes les synergies que nous escomptions. Et la première chose, c'est d'abord les synergies commerciales. Donc à ce jour, après 6 mois, la totalité des objectifs de synergie commerciale que nous souhaitions ont été réalisés, à savoir des forces de vente uniques dans chacune des filiales du groupe qui vendent la totalité du portefeuille produit. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la refonte pour optimisation du réseau de distribution. En dehors donc des endroits où nous étions directs, c'est une force de Cantel Médical. Et là, l'équipe a pris en charge tous les produits. Nous avons fait le nécessaire pour pouvoir nourrir nos réseaux de distribution avec les produits Elex. Et tout ça a été mis en place, c'est-à-dire la refonte des contrats de distribution, les formations et ainsi de suite. Le troisième point qui était important, c'était les projets R&D. Donc, on avait 2 entreprises ou 3, si on rajoute Optotech, qui avaient chacune des projets qui étaient voisins les uns des autres dans certains domaines. Il a fallu tout de suite prendre le leadership. Donc, il y a dorénavant une seule équipe de R&D avec un patron, mais 3 équipes géographiques, entre parenthèses, qui sont vraiment classées en fonction de leurs compétences, mais qui courent un seul et même lièvre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est en place. Le dernier point, c'est l'intégration, alors là, plus pragmatique. Donc, on a mis en place les outils de suivi, on a mis en place les éléments de RP, on a mis en place, on a fait les restructurations dans certains pays qui nous permettaient de garder qu'une seule entité. On a fermé l'entité Elex européenne pour la rapatrier à Clermont. Donc, tous ces éléments-là ont été faits, réalisés. Et sur la deuxième partie de l'année, donc le chiffre d'affaires Elex est en progression par rapport à la première partie de l'année. Donc des ventes des produits Elex, hein, ça c'est un premier point qui est quand même significatif, je crois. Les économies liées de restructuration pour la plupart ont été faites
Et donc, qu'est-ce qui nous reste maintenant à poursuivre? C'est des choses à plus court, plus long, plus moyen, à moyen terme, pardon. C'est la rationalisation des gammes. C'est le travail sur tout ce qui est bill of material pour aller chercher des points de marge. Mais aujourd'hui, quand on avait besoin de faire des, quand on avait besoin de mettre en œuvre des synergies commerciales, elles sont faites. Les effets se font sentir. Et je pense qu'on aura sur la deuxième partie de l'année de bonnes surprises quant à la contribution d'Elex à la performance du groupe. Alors, je ne sais pas si ça répond à vos questions, parce que je pourrais être très bavard.
Non, parfait, c'est très complet. C'est très explicite. Et puis, j'ai une autre question sur Halo Photonics, parce qu'on voit aussi, bon, c'est une intégration récente également, on voit le chiffre d'affaires bondir au Q4, vous le signalez dans le communiqué. Donc, à quoi c'est dû cette envolée des ventes sur Halo Photonics en fin d'année?
Alors là, nous étions, Halo Photonics, je vous rappelle, c'est une acquisition qu'on a faite en fin d'année l'année dernière, et on a tout de suite vu l'opportunité que nous avions de réunir ça avec l'activité que nous avions au Canada, pour travailler autour des mêmes spécialités. Donc, nous avions envisagé un transfert, une mutualisation de la production. Et ça a pris, avec le Covid, beaucoup plus de temps que prévu. Donc, ce qui fait que, alors qu'on avait un portefeuille de commandes qui était bien en place, mais on a mis plus longtemps à optimiser notre production des deux côtés. Ça a pris plus de temps. Mais maintenant, et donc, ça s'est rattrapé sur la fin de l'année, où il a fallu pousser ça, et avec en plus, ben, tout simplement, le fait que la machine commerciale s'est mise en œuvre aussi. On a maintenant une force de vente dédiée à l'ensemble de ces produits-là, et on sait que ben, quand on met des vendeurs et sur le terrain, on a plus de chances d'avoir des ventes derrière. Donc c'est une combinaison de deux effets, ce fort quatrième trimestre, les délais pour le transfert de production et la montée en puissance de notre outil de production, parce que c'est quand même pour Halo la plus forte année qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Hein. Ils n'avaient jamais réalisé ces niveaux de vente. Donc, on a tout de suite vu qu'il fallait adapter notre production à ça. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu et principalement à cause du Covid, encore une fois. Et donc, le rythme de croisière qu'on espère avoir maintenant en 2021 n'a été trouvé que très tardivement dans l'année.
D'accord. Et donc, ce n'est pas qu'un effet d'aubaine à court terme, on peut quand même espérer une poursuite d'une normalisation de la croissance sur les prochains trimestres.
Tout à fait, on est exactement là dans cette la sortie, la poursuite de l'effet, non pas d'aubaine, mais l'effet de montée en puissance. Et la montée en puissance qui va nous donner sur 2021 des chiffres qui doivent être et qui seront supérieurs à ce qu'on a fait en 2020.
Très bien, merci pour ces réponses.
La question suivante est de la part de Madame Delphine de Menibus de Financière 12. À vous la parole, Madame.
Bonjour à tous. J'avais deux questions sur la montée en puissance de l'IDAR pour la voiture autonome. On voit bien que ça prend un petit peu de temps. Est-ce qu'on va commencer à voir quelque chose de significatif en 2021? Est-ce que ça va s'accélérer quand on voit les chiffres globaux du marché que vous donnez et la perspective de croissance, on arrivera quand même à un chiffre a priori assez élevé en 2023. Je voudrais avoir une question sur l'idée du timing.
D'accord. Donc sur la partie véhicule autonome, donc les choses reprennent en fait des couleurs en termes donc d'activité, de chiffre d'affaires. Donc en fin d'année, ça a déjà recommencé. Donc on voit en fait la réactivation en fait donc de qualification et de pré-série, mais encore une fois ce qui s'est passé en 2020 donc a été en fait donc un retour au développement d'une nouvelle génération en fait de LIDAR, et c'est vrai pour tout le monde, hein, nos clients qui sont en fait tous les noms en fait de start-up quasi tous que vous voyez dans la presse régulièrement ont été en mode actif de développement et nous ont demandé en fait de développer en fait des nouveaux produits. Donc sur 2021 on voit, enfin c'est déjà démarré sur le T4, livraison des pré-séries de cette nouvelle génération de produits. Enfin, bon, il y a, il y en a, quelques-unes, ça va être graduel, mais donc on verra une progression en fait donc du chiffre d'affaires donc en 2021 donc sur la DAS. Alors ça va pas être des très très gros volumes encore, donc parce qu'en fait donc il y a tout un travail de qualification, mais on sera très largement supérieur à ce qui a été fait donc l'an dernier en fait. Donc encore une fois, pour nous le jeu donc on connaîtra en fait donc vraiment les perspectives de ces marchés-là donc vraisemblablement donc pas avant début 2022 donc maintenant parce que ça décalise donc sans arrêt donc ça c'est pas de notre fait. Donc les gros appels d'offres donc vont vraisemblablement être fin 2021 donc début 2022 donc
voilà. Ah, d'accord. Plutôt sur la deuxième partie des trois ans qui viennent.
Oui.
Et avec des news sans doute donc fin 21 et début 22.
Sans doute oui. Oui.
Merci.
La question suivante est de la part de Monsieur Jeremy Salé de Potsdam Park. À vous la parole, monsieur.
Ah oui, j'avais deux questions complémentaires sur la partie défense. Vous indiquiez que l'impact du mégajoule est de moins 5,5 millions d'euros en 2020. Est-ce qu'on peut connaître le montant du chiffre d'affaires du mégajoule en 2019 et à quoi doit-on s'attendre sur 2021 en termes de phasage? Est-ce qu'il va y avoir un rattrapage de ces 5 millions ou est-ce qu'on devrait rester sur une activité stable?
Oui, Jérémy. Oui. Alors, le chiffre d'affaires, en fait, le chiffre d'affaires 2019, en fait, pour le laser mégajoule était de 13,4 millions. Comme on l'avait déjà précédemment évoqué, en fait, le contrat dans sa phase, en fait, d'équipement, se termine en 2021. Donc, on aura sur l'exercice 2021 encore une baisse, en fait, de l'activité, mais qui est complètement en phase avec les planifications qu'on avait, hein, avec la vision que l'on avait, qui est compensée d'ailleurs par le développement de, comme le disait Marc tout à l'heure, en fait, de nouvelles activités, en fait, et de nouveaux contrats. Ensuite, au-delà de 2021, on aura en fait une stabilisation de l'activité, principalement centrée sur la maintenance, en fait, et l'évolution, enfin, et la mise à jour, en fait, dans le temps, en fait, du contrat. Enfin, du projet, sachant que c'est un contrat qui va durer très longtemps. Enfin, les perspectives du contrat sur la technologie que l'on a livrée en fait au CEA, en fait, est quelque chose en fait d'assez clé dans leur système et sur lequel en fait on a de très bonnes perspectives d'avenir en fait, dans la durée.
Juste un point additionnel. Donc, c'est Jean-Marc qui parle. Là, on va démarrer vraiment la discussion de ce qu'on appelle les MCO, c'est-à-dire quel est le plan de maintenance de ces produits-là et de ce contrat-là, donc qui débouchera sur un contrat sur plusieurs années aussi. C'est un challenge pour tout le monde de bien anticiper tout ça et de savoir comment ça va se comporter. Donc, je rappelle, hein, quand on regarde la baisse qui a été signifiée du chiffre d'affaires au départ, qui a été anticipée, il y avait une baisse, une partie de cette baisse-là qui était liée au mégajoule et qui était anticipée dans notre budget, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est bien important de le noter, parce que bon, on n'a pas eu les hausses qu'on escomptait toujours, mais par contre, cette baisse-là, on l'a eu vraiment, puisqu'elle était de toute façon anticipée.
Ok, et sur 2021, il faut s'attendre à une baisse à peu près du même ordre?
Non. Sur 2021, c'est la fin du contrat, on devrait... on est en discussion, nous sommes en discussion avec eux, mais je pense pas que ça baissera pas de ce niveau-là.
Okay. Et ensuite, j'avais une dernière question sur au niveau du M&A. Alors, on a vu que voilà, vous avez un intérêt sur pour la société Silas. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre pipe M&A, vous avez d'autres dossiers d'une taille similaire ou c'est le seul qui soit sur un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions?
Je vais laisser Marc répondre ou Pierre sur ce point-là.
On est actif donc sur plusieurs projets aujourd'hui donc de tailles différentes. Il y a à la fois des gros projets donc qui sont de 40 voire plus donc et puis des plus petits projets donc qui sont entre 0 et 10. Voilà pour une fourchette assez large.
Ok, du coup, oui, il y en a plusieurs de taille équivalente à Silas.
Oui.
Ok.
Et pas nécessairement sur la défense. Hein, du coup.
D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, là sur Silas, on voit que vous êtes quand même face à des très gros acteurs. Quels sont aujourd'hui les points forts de l'UmiBird pour arriver à gagner un appel d'offres face à du Safran et du MBDA?
Bah, la proposition de valeur, si je puis dire, qu'on fait par rapport à ces grands intégrateurs, c'est d'offrir une certaine neutralité donc par rapport à l'ensemble en fait des intégrateurs de défense français et européens, qui continuent d'être des compétiteurs acharnés les uns envers les autres. De voir arriver sur le marché un nouvel acteur neutre qui soit capable au niveau des sous-systèmes et des composants de fournir l'ensemble en fait des intégrateurs de défense français européens notamment mais pas que c'est quelque chose de nouveau et qui a de la valeur également pour les intégrateurs de défense ils le concèdent mais également pour le gouvernement français bien évidemment.
Ok, merci beaucoup.
Monsieur Le Fleuic, nous n'avons pas de questions en ce moment.
Bien, attendons encore quelques minutes. Merci.
Quel confinement après, hein.
Oui, c'est vrai. C'est déjà passé. Hein, donc...
Je crois qu'on est déjà.
C'est pour ça que nous, on va tous rester au bureau jusqu'à demain matin. On peut clore, Marc, là, non?
Oui. Bon, bah, écoutez, donc, merci à tous et à toutes. Merci de votre intérêt, merci de votre confiance. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, bien évidemment. Nous aurons le plaisir de vous revoir pour vous entendre pour la prochaine communication au mois de mars, pour cette fois-ci, les résultats. Bonne soirée à tous, à bientôt.
Merci beaucoup, bonsoir à tous.